Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Durant plusieurs émissions, nous allons nous demander quelle est la place du chrétien dans la société dans laquelle il vit et quelle influence peut-il y exercer.
Nous allons aborder ces thèmes avec l'aide de notre invité Robert. Bonjour Robert.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons considéré l'enseignement de Jésus lorsqu'il compare ses disciples au sel et à la lumière. Ces images parlent de l'influence que les chrétiens devraient exercer dans le monde en menant un combat contre le mal et en contribuant au bien-être dans sa communauté, en dirigeant par son comportement les regards de tous vers Dieu.
Aujourd'hui, nous parlerons de l'amour que nous pouvons exercer envers notre prochain. Mais avant de poursuivre, nous allons écouter la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48.
Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui.
Robert, vous avez expliqué que vous nous parleriez aujourd'hui de l'amour que nous devons témoigner à notre prochain. Cependant, dans le texte que nous venons de lire, Jésus semble nous exhorter aussi à manifester un tel amour envers nos ennemis.
Oui, les propos de Jésus nous suggèrent que l'amour dont nous devons faire preuve en tant que disciples de Jésus-Christ doit être différent de l'amour que nous rencontrons habituellement dans le monde. En effet, nous devons être différents du monde et plutôt refléter les qualités de l'amour divin. Mais laissez-moi vous expliquer le contexte des paroles de Jésus.
Je vous en prie.
La loi donnée dans l'Ancien Testament et les écrits des prophètes enseignent « Aimez votre prochain ». Cependant, à l'époque de Jésus, certains savants débattaient cette question. Qui est mon prochain? Et ils en arrivaient à la conclusion que certaines catégories de personnes ne pouvaient en aucun cas être considérées comme son prochain. Autrement dit, ces savants voulaient limiter la portée de ce commandement. Ils ne voulaient pas exercer l'amour envers tous leurs contemporains, quels qu'ils soient, et ils essayaient de se trouver des excuses afin de se dérober à leurs responsabilités. Ils pouvaient affirmer, par exemple, « Cette femme est une étrangère, elle n'est donc pas mon prochain, je suis en droit de ne pas l'aimer. » Ou bien « Cet homme a commis des fautes graves, je peux ainsi affirmer qu'il n'est plus mon prochain » et qu'il n'est plus de mon devoir de l'aimer.
Jésus voulait donc briser cette mentalité en affirmant que notre prochain pouvait aussi être celui que nous considérons comme notre ennemi.
En effet, de plus, il désirait apporter un élément nouveau. Il est tout naturel pour l'homme d'aimer relativement facilement un cercle restreint de personnes, incluant sa famille et ses amis proches. Il est d'ailleurs tout à fait normal de réserver un amour particulier envers ses proches. Toutefois, en tant que disciples de Jésus, nous ne devons pas en rester là et nous limiter à cet amour restrictif. Nous devons exprimer une ouverture plus large, allant au-delà de notre cercle intime et considérer qu'il se trouve d'autres prochains, d'autres personnes appelant notre amour et aux besoins desquels nous pouvons répondre. L'enseignement de Jésus nous encourage à pratiquer l'amour envers notre prochain sans distinction. Autrement dit, nous ne devons pas refuser d'aider un être humain à cause de jugements basés sur des critères, tels que sa race et sa religion, son apparence ou son passé mouvementé. Jésus dirige nos regards vers l'exemple de notre Père Céleste qui fait briller le soleil et tomber la pluie sur les méchants comme sur les bons, sans distinction. Aucune.
Je comprends vos propos, Mais tant de gens vivent dans le besoin qu'il est impossible de manifester à tous notre solidarité.
Vous avez raison, Yann. Et Jésus ne nous demande pas d'accomplir l'impossible. Il est évident que nous avons tous des limites. Limites imposées par le temps mis à notre disposition. Limites imposées par notre état de santé. Limites imposées par nos ressources financières. Jésus comprend toutes ces contraintes. Son objectif, toutefois, est de nous aider à sortir de notre mentalité égoïste qui consiste à fermer nos cœurs, afin que nous donnions avec amour et générosité.
Robert, de nos jours, le verbe « aimer » revêt plusieurs définitions, et lorsque nous affirmons que nous devons aimer notre prochain, on peut se demander de quelle façon nous pourrions l'aimer.
Vous avez raison, Yann. De nos jours, le verbe « aimer » est le plus souvent associé au sentiment. C'est la définition qui se dégage des médias. Cependant, l'usage biblique du verbe « aimer » est davantage associé aux actes, aux actions destinées à accomplir le bien. Une personne imprégnée des pensées du monde se demandera quel avantage elle gagnera en aimant un tel ou une telle. Elle aimera ou appréciera un individu en vue de ce qu'elle recevra de lui en retour. Un tel amour inclut un élément d'intérêt personnel. Cependant, la Bible met l'accent sur l'acte de donner plus que sur celui de recevoir. Elle nous encourage à imiter notre Père Céleste qui nous offre tant de bonnes choses et qui surtout nous a donné son Fils, Jésus, pour devenir le sauveur de nos vies. L'amour, selon la Bible, est gratuit. Il est désintéressé.
Vous avez expliqué que l'amour est l'acte de donner et de faire du bien. Parlez-nous davantage de la manière dont nous pouvons exprimer notre amour envers notre prochain.
D'abord, nous pouvons exprimer notre amour envers notre prochain en nous abstenant de lui faire du mal, en le respectant tel qu'il est, avec son caractère propre et sa personnalité. Nous devons rejeter de nos vies toute idée de meurtre, toute agression physique ou sexuelle. Nous devons respecter ses biens en refusant le vol, la fraude ou l'escroquerie à son égard. Nous devons soigner sa réputation en ne répandant ni mensonge ni commérage à son sujet. Je pourrais continuer cette liste, mais vous avez, je suppose, compris le principe.
Ne pas avoir recours au mal contre son prochain est important, mais vous avez aussi parlé de recherche et les actes qui contribueraient à son bien-être.
Oui, il existe tellement de façons différentes d'agir pour le bien de son prochain qu'il revient à chacun de se demander « Quels sont les besoins de mon prochain, de mon quartier, de mon village ?» Dans le même temps, il convient de faire le bilan de ses compétences et de ses ressources, puis de s'interroger sur la meilleure façon de les utiliser pour le bien-être de son prochain. Il faut laisser courir son imagination et chercher la volonté de Dieu. Une chose est sûre, en reflétant dans nos vies l'amour de Dieu, nous exercerons une influence positive autour de nous.
Merci Robert, nous devons nous arrêter là. Et il est vrai que ce thème est inépuisable, mais vous nous avez laissé devant un défi important, celui de réfléchir à la manière d'aimer notre prochain. Aujourd'hui, nous avons abordé quelques généralités ayant un rapport avec ce thème, mais nous y reviendrons en plus de détails dans la suite de cette série sur la place du chrétien dans la société.
Merci Robert pour vos enseignements clairs et instructifs sur ce thème si important. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique dont le sujet porte sur le fruit de l'esprit.
Nous nous pencherons plus exactement sur quelques paroles bien connues écrites par l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Nous avons appris que le fruit de l'esprit dépeint le caractère de Jésus-Christ et qu'il présente les qualités divines auxquelles tout chrétien doit aspirer. Notre invité Étienne va désormais réfléchir sur chacune de ces qualités énumérées par Paul. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la première qualité mentionnée par Paul. Il s'agit de l'amour. Et je cède tout de suite la parole à Étienne.
Merci Yann pour cette introduction et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons considéré l'amour dont Jésus a fait preuve envers les hommes et nous avons alors évoqué sa compassion, sa générosité et son sacrifice. Aujourd'hui, il me semble important que nous nous penchions sur la mort de Jésus, car ce sacrifice est l'expression suprême de son amour. Pourquoi ? L'apôtre Jean nous le révèle dans sa première épître au chapitre 4, les versets 9 et 10. « Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mais en quoi le Seigneur Jésus-Christ nous prouve-t-il son amour sur la croix ? Tout d'abord, en mourant de son propre gré sur la croix, Jésus vient au secours de nos besoins les plus profonds. Par ce sacrifice, il règle le problème le plus grave auquel nous puissions jamais être confrontés. Car le fait que nous soyons des pécheurs nous sépare de Dieu et nous destine à la mort et à l'enfer. Voilà un problème gravissime. Toutefois, Jésus, innocent de toute faute, s'est proposé de prendre nos fautes sur lui, d'en payer le prix, et de subir le juste châtiment de Dieu à notre place. Ainsi, sur la croix, non seulement a-t-il subi la brutalité des hommes, mais aussi la colère de l'Éternel à notre place, afin que celui ou celle qui met sa foi en lui reçoive le pardon de ses péchés et puisse commencer une vie nouvelle, une vie qui consiste à connaître Dieu et à vivre éternellement avec lui. Voilà l'amour de Jésus pour nous. Jésus a compris la gravité de la situation dans laquelle nous étions tombés à cause de nos fautes. Il a vu notre impuissance face à ce problème, notre incapacité à le résoudre, et dans sa compassion, il a agi. Il a tout mis en œuvre pour nous sauver. Or, ce plan de salut nécessitait que Jésus meure sur la croix, qu'il souffre à notre place. Mais Jésus était disposé à assumer un tel sacrifice. Son amour pour nous était si fort qu'il était prêt à payer un tel prix, qu'il était prêt à tout donner, à donner ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire sa vie, afin qu'un jour, nos yeux puissent voir Dieu et que nous jouissions de la véritable vie, de la vie éternelle. Il s'agit là d'un amour si extraordinaire que l'apôtre Paul priait pour ses frères afin qu'ils puissent le comprendre et le saisir dans toutes ses dimensions, dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, dans toute sa profondeur et dans toute sa hauteur. Oui, cher ami, c'est aussi ma prière pour vous aujourd'hui.
Sur ces paroles, nous devons terminer notre émission, mais nous vous encourageons à constamment méditer sur cet amour merveilleux de Dieu, exprimé envers nous à travers la vie et la mort de Jésus-Christ.
Nous vous donnons rendez-vous dès notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.